Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Tarsi Sensei. L'édition 2006 de la mythique course en montagne Sierre d'Inal a vu gagner celui qu'on considérait comme le régional de l'étape. En effet, Tarsi Sensei habitait à ce moment le Val d'Anniviers. Cette victoire est d'autant plus prestigieuse qu'elle a été acquise aux dépens du Mexicain Ricardo Mejía, quintuple vainqueur de la course. Natif de Fuy, Tarsi Sensei est aujourd'hui établi à Crans-Montana. Il peut être qualifié d'homme de défi. Il a en effet eu l'audace de changer totalement de profession à deux reprises. D'abord boulanger, il a été facteur durant de nombreuses années, et aujourd'hui, il gère un commerce d'articles de sport à Sion. De surcroît, il s'est lancé depuis quelque temps dans la politique et a été élu député suppléant au Grand Conseil valaisan. Voici donc cette interview réalisée durant l'été 2018. Pour quelles raisons est-ce que vous êtes mis un beau jour à faire de l'athlétisme ?
Alors l'athlétisme, proprement dit, j'en ai jamais fait. J'ai plutôt fait du football, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du volley. J'ai même fait un peu de parapente et puis j'ai commencé à courir un peu au milieu de tout ça parce que à l'époque je me déplaçais énormément à pied en courant ou alors à vélo.
Pour votre profession ?
Pas forcément, je courais par plaisir parce que tous les déplacements qu'on faisait c'était à pied, on voulait aller au terrain de foot, c'était à pied, on rentrait à pied. Et je pense que c'est ça, peut-être, qui m'a donné un petit peu ce côté sport-nature, et puis aussi ce niveau qui m'a permis, que dès mon plus jeune âge, de me former, en quelque sorte, avec le sport d'endurance et la course à pied en particulier.
À quel âge est-ce que vous avez commencé à faire de la compétition de course à pied, et qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier, on dira ?
Eh bien, c'est parti, tout simplement, sur un pari que j'ai fait avec mon ex-beau-père de l'époque. Car arrivé dans le Val d'Anniviers, moi j'étais un peu le footeux, j'étais celui qui joue au foot entre Saillon et Fuy. Et puis quand je suis arrivé dans le Val d'Anniviers, je me suis renseigné de savoir s'il y avait une équipe de foot, qu'on m'a dit bien sûr qu'il y a une très bonne équipe de foot, qui ont trouvé magnifique, une belle aubaine que je puisse venir, moi qui jouais 2e ligue même à Fuy, de venir compléter leur équipe parce qu'ils étaient en manque de contingent, quelques joueurs étaient à l'armée, etc. Et puis, je leur ai demandé quelles étaient leurs ambitions et ils m'ont dit, nous, cette année, on va lutter un petit peu contre le maintien parce qu'il nous manque quelques joueurs importants. Alors j'ai dit, c'est des années comme ça, si je peux venir donner un coup de main, c'est pas plus mal. Mais j'aurais quand même posé la question en quelle ligue ils jouaient, puis ils m'ont dit en 5e ligue. J'ai dit, ok, donc si vous luttez contre la relégation 5e ligue, ça veut dire que c'est... Voilà. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire dans le Val d'Anniviers ? Eh bien, je me suis mis à courir pour retrouver mes anciennes passions qui étaient la course à pied de montagne, car en junior, j'avais fait quelques belles saisons en junior. Et puis, c'est ainsi que j'ai recommencé à courir, puis qu'un soir, autour de la table, mon beau-père m'a dit, tu peux courir tout ce que tu veux, de toute façon, tu n'arriveras jamais à battre mon temps à Sierre d'Inal, qui était de 2h55 et 16 minutes et 16 secondes. Et je lui ai dit, ok, alors on a signé un papier, une charte. Et puis, j'avais 3 ans pour réaliser ce projet. La première année, ça a été moyen, j'avais fait 3h11. Puis la deuxième année, par contre, là, j'avais tout mis en œuvre pour réaliser. Je me suis pris un physio, j'avais un coach, un entraîneur. J'avais vraiment une très bonne équipe. Je me suis dit, autant choisir les meilleurs pour réaliser un projet, vu que j'avais plus vraiment de temps à perdre, vu que j'avais déjà 29 ans. Et j'ai vraiment commencé à courir à l'âge de 29 ans. Et l'année suivante, j'ai réalisé 2h42 à Sierre d'Inal, ce qui était déjà pas mal. Et le record était, bien sûr, de mon beau-père était battu.
À l'âge de 36 ans, vous avez gagné Sierre d'Inal. Vous dites vous-même que c'est la plus belle performance de votre vie. Est-ce que vous auriez pu imaginer, franchement, la veille, est-ce que vous avez pu imaginer que vous gagneriez cette course ?
Oui. Oui, parce que dans ma tête, j'étais prêt. Après, reste à savoir si les gens me suivent, mais dans ma tête, j'étais prêt. Et puis, c'est vrai que je pense que sur la ligne de départ, j'étais pas le plus fort. Il y avait des coureurs qui venaient de Mexico, de
Donc, il y a le
Colombie.
fameux Ricardo Mejía qui avait déjà gagné cinq fois
Voilà,
la course au Clavaro.
exactement. Il était là et il avait les faveurs de la côte. Mais moi, je savais ce que j'étais capable de faire et j'ai dit, je pars pour gagner. Quand j'étais sur la ligne de départ, je me suis dit, je suis pas là pour faire de la figuration, je veux gagner la course. Je savais ce que je devais faire pour le réaliser et j'ai joué mon coup à fond et puis ça passait.
Vous avez été pendant un certain nombre de kilomètres dans les avant-postes, mais dans les trois quatrième rang, je crois.
Oui.
Comment se sont déroulés les derniers kilomètres? Est-ce que vous pouvez nous re-raconter tout ça?
C'est une course que moi j'ai toujours eu la même tactique de course. C'est simple, on part à fond, on accélère à la mi-course et on termine comme un boulet de canon. En résumé, ça veut dire qu'on monte en essayant de gérer un peu quand même cette montée qui est très raide, que j'affectionne pas très bien, mais que j'essaie de m'économiser au maximum de façon à pouvoir arriver à Ponchette et de pouvoir vraiment courir. Car avant Ponchette, il n'y a pas beaucoup de secteurs où je cours, parce que je marche énormément. Ce qui me permet de m'économiser énormément, ça veut dire que je passe à Chandelin, je suis rarement dans les 10 premiers. Et puis après, alors, c'est là que moi, je commence vraiment à faire valoir mes qualités de marathonien. Et puis, je reviens petit à petit sur les concurrents. Souvent, ça se passe entre Tignosa et l'Hôtel Weisshorn. C'est là d'ailleurs que j'ai rattrapé la plupart des coureurs lors des 5 dernières éditions que j'ai fait, entre autres des Kilian Jornet et Krupicka et César Costa. Et puis après, ben, il faut gérer, il faut rien lâcher, et puis d'essayer de pas tomber dans la descente. Et puis voilà.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'arrivée, dans les 10-15 minutes après l'arrivée?
Alors déjà dans les 400 derniers mètres, quand je me retourne et que je vois que personne n'est derrière moi et qu'on me crie que j'ai plus de 2 minutes d'avance, alors à ce moment-là, je me dis, je savoure, ça veut dire que tu baisses un petit peu la vitesse. Tu touches des mains, tu pleures forcément, et puis tu as de l'émotion qui vient. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris outre mesure, parce que cette victoire, ben, je l'avais déjà tellement rêvée de fois que j'avais presque déjà l'impression de l'avoir vécue avant. Et ça, c'est aussi une de mes forces de dire, de le visionner dans sa tête de façon à être prêt à une éventuelle victoire. Beaucoup de gens se disent, on ne sait jamais comment ça peut se passer, on sait qu'on peut avoir une défaillance, on sait qu'on peut avoir un problème d'ordre physique, matériel ou dans le ventre. Mais moi, je préférais me dire de me projeter dans des situations de vainqueur. Ça veut dire que je m'imaginais gagner, je m'imaginais rattraper des coureurs. Et ça, l'entraînement, ça se travaille. Et c'est quelque chose qui se travaille à tous les entraînements, pas seulement une semaine avant la course.
Après cette merveilleuse performance, est-ce que vous avez vécu dans les mois qui ont suivi, voire dans l'année qui a suivi, quand même un moment plus difficile parce qu'on redescend un petit peu sur terre après cette euphorie?
Alors, je dirais que c'est clair que c'est un moment d'euphorie qui moi, j'ai l'impression qu'il ne s'est encore pas arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un moment où c'est que tu redescends sur Terre, parce que je fais souvent le comparatif avec une personne qui gagne une médaille olympique dans son sport. C'est une victoire qui est difficile à faire mieux. Et en course à pied de montagne, eh bien, c'est un petit peu la médaille olympique que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je n'ai jamais eue et que je n'aurai jamais. Donc, d'une fois qu'on a fait ça, après, c'est vrai qu'il faut gérer son après-Sierre Zinal, après-victoire à Sierre Zinal. Mais ça m'a tellement apporté de satisfaction, notoriété qui, bien sûr, m'a poursuivi et me poursuit encore maintenant, que c'est vraiment quelque chose que j'ai de la peine à expliquer tellement que ça m'a apporté de satisfaction durant toutes ces années sans vraiment avoir un moment où c'est que ça m'a retombé sur la tête.
Un peu plus tard, vous avez trouvé un autre défi à relever, c'est les championnats suisses de marathon. Vous avez gagné 4 années de suite, entre 2008 et 2011. Quel souvenir de ces 4 titres?
C'est vrai que c'était une autre discipline. Le marathon, c'était toujours une discipline que j'ai pratiquée durant l'hiver. Ça me donnait un petit sucre pour préparer la saison d'été. Et puis, je pense que si je n'avais pas cette préparation pour le marathon durant l'hiver, je n'aurais pas atteint cette victoire à Cerdinal. Beaucoup de gens font du ski alpiniste l'hiver, mais je pense qu'à part Kylian Jornet, je ne sais pas si un jour il y aura un autre coureur qui est capable de performer en ski alpinisme et en course à pied pour gagner des courses comme Kylian le fait. Pour moi, c'était le marathon, c'était vraiment un objectif. C'était un objectif, bien sûr, parce que mon entraîneur Michel Delez et Augustin Genoux m'ont toujours dit que j'étais d'abord un coureur de plat et non pas un coureur de montagne. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours mis ma priorité sur le marathon. Et ensuite, c'était déjà un bon fond pour attaquer la saison de course de montagne.
Vous l'avez dit, vous n'avez pas pu obtenir de médaille à des Jeux Olympiques. Une grosse déception quand même, ou pas tant que ça?
Alors forcément, quand on court pendant des années après une qualification déjà, avant de parler de médaille, pour aller à des Jeux Olympiques, et puis que finalement on échoue pour des problèmes de santé, ben voilà, c'est clair que ça a été beaucoup plus dur pour moi de passer par-dessus que de devoir remonter la pente après avoir gagné une course comme Cerdinal.
On a évoqué ce merveilleux souvenir de Cerdinal. Est-ce que vous avez une autre course qui, par contre, s'est vraiment mal passée, ou vous avez eu de la malchance, par exemple, due à une chute ou à une autre raison qui vous a empêché de gagner ou d'avoir un bon résultat?
Oui, il y en a quand même quelques-uns, dont d'ailleurs une fois à Cerdinal, où je partais, pour ainsi dire, à 3 km de l'arrivée vers une victoire qui me tendait les bras avec un certain Kylian Jornet que je venais de lâcher. Malheureusement, je suis tombé. Kylian m'a sportivement aidé à me relever. Et après, bien sûr que c'était beaucoup plus compliqué que pour moi pour terminer cette course.
Merci Sensé. J'ai contacté il y a quelques jours Augustin Genoux, qui fut l'un de vos mentors lors de votre carrière sportive. Il m'a parlé de votre première rencontre qui a eu lieu dans un café de la ville de Sierre. Est-ce que vous vous souvenez de cet entretien?
Parfaitement. Je me souviens surtout de voir sa tête quand je lui ai dit « Je veux faire 2h55 à Cerdinal ». Parce que là, il m'a dit « Ouf ». Il a branlé la tête en me disant « Mais tu sais, 2h55, c'est pas rien, c'est quand même beaucoup d'entraînement ». Et c'est là que je lui ai dit « Ça n'a pas d'importance, on prend une feuille de papier blanche ». Tu m'écris le nombre de jours d'entraînement que je dois faire, le nombre d'heures d'entraînement que je dois faire, le nombre de kilomètres que je dois parcourir, et moi, je cours. Alors, le seul souci que tu as, c'est de me donner un plan pour me permettre de faire, dans les 3 prochaines années, atteindre ces 2h55 à Cerdinal. Et c'est ce qu'il a fait.
Il m'a dit que justement, il avait été aussi surpris de voir que vous arriviez très vite à vous prendre en charge au niveau des entraînements. Et lui, il était plutôt là pour les conseils.
C'est vrai qu'au début, Augustin me faisait mon plan comme je le fais maintenant pour beaucoup de mes clients. C'est-à-dire que c'était un suivi jour après jour. Je savais exactement le lundi ce que je faisais durant la semaine, ainsi de suite. Et c'était des programmes qui étaient faits mois par mois. Et puis, quand on a fait ça pendant 2 ou 3 ans, ben, on s'aperçoit que souvent ça revient. Mais l'avantage d'avoir écrit les entraînements qu'on fait, c'est de pouvoir relire les années suivantes pour ne pas faire les mêmes erreurs et puis pour pouvoir s'améliorer. C'est pour ça que je me suis beaucoup imprégné et pris note de tout ce que j'ai fait avant, les premières années d'entraînement, pour optimiser mes entraînements et puis d'être toujours de plus en plus performant.
Une autre chose qu'il m'a dit, c'est qu'il était très étonné de votre capacité de récupération. Il se souvient particulièrement d'un marathon que vous avez gagné à Zurich, et 3 jours plus tard, vous aviez gagné une course 10 km dans le Chablais. Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, c'était d'ailleurs, moi j'étais aussi surpris parce que c'était les championnats suisses de marathon à Zurich. 3 jours après, il y avait les championnats valaisans de 10 km sur route à Eviona. Et puis au départ, je me suis dit, je vais essayer de suivre l'allure des premiers, qui n'étaient pas des moindres. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, à partir de la mi-course, j'essaie d'imposer un petit peu mon rythme. Et puis, j'ai vu que j'arrivais encore à distancer. Mais je dois avouer quand même que ça, c'est une expérience que je ne conseille à personne, en tout cas pas aux personnes que je coach, parce que pour moi c'était bien, mais c'était pas du tout bien au niveau physionomique, vu que d'une fois qu'on gagne un marathon, qu'on gagne un 10 km, ensuite j'ai poursuivi avec gagner un championnat suisse de cross PTT, et j'ai encore continué un mois plus tard à faire un autre marathon à Genève, où d'ailleurs j'ai réalisé mon meilleur temps en 2:17. Mais seulement, il m'a fallu 2 mois pour pouvoir recommencer à courir, vu que lors de cette dernière course, je me suis fissuré le sacrum, fracture de fatigue au sacrum, ce qui a été ma plus grosse blessure, mais aussi, ça a été aussi ma plus grosse bêtise, parce que le corps humain, ben voilà, c'est pas une machine. Il y a des moments où c'est qu'on doit respecter certaines fatigues, on doit respecter des temps de repos, des temps de récupération, et c'est ce que, bien sûr, je n'ai pas fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à conseiller à toutes les personnes que je coach de ne pas suivre des entraînements et surtout des compétitions à outrance sans trop réfléchir.
En course à pied, dans les longues distances, est-ce que le mental a une forte importance selon vous?
À mon avis, le mental, c'est une des choses les plus importantes en course à pied, ou dans d'autres sports aussi, mais en particulier dans la course à pied, parce que pendant longtemps dans la course, on se trouve seul avec soi-même, on peut compter que sur nous. Alors, on peut compter sur avoir des bonnes jambes, l'entraînement, c'est important, d'avoir bien mangé aussi, d'avoir l'estomac qui tient bien. Mais on peut avoir les meilleures jambes au monde, on peut avoir le meilleur estomac, le meilleur cœur, les meilleurs yeux, le meilleur tout. Mais si on a la tête qui ne suit pas, on n'a aucune chance de gagner une course. Et plus ça va, plus j'ai envie de dire que le mental prend un accent encore plus important, plus on se rapproche de la compétition de haut niveau. Parce que pour gagner quelques secondes, quelques centièmes, des fois une fraction de seconde où notre mental part dans des pensées qui n'ont rien à faire dans notre tête à un moment précis dans la course, et c'est tout de suite des secondes qui passent et des secondes qu'on perd, et un objectif ou une victoire qui nous échappe.
Vous-même, est-ce que vous avez fait des techniques particulières de relaxation ou de visualisation?
Alors moi, j'ai eu l'aide d'une coach mentale, spécialiste pour la course à pied et pour le sport et le tennis en particulier. Et puis c'est vrai que ça m'a énormément aidé, parce que ça m'a donné la possibilité de comprendre comment avoir des accroches de façon à tirer le positif dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on court, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on ressent, de toujours avoir ce côté positif, ce côté où c'est qu'on se dit, on peut le faire, on peut le réaliser, on a tout fait juste, on a fait exactement ce qu'il fallait faire pour atteindre notre objectif. Et je pense que c'est peut-être la voie que beaucoup d'autres coureurs devraient prendre afin d'arriver à optimiser leur compétition et leur entraînement. Et je pense qu'actuellement, beaucoup de gens s'entraînent beaucoup, énormément, des séances de malades, mais ne pensent pas suffisamment à développer ce côté préparation mentale, où on arrive à puiser au plus profond de sa tête pour repousser le plus loin possible nos limites.
Vous avez arrêté la compétition à quel âge exactement?
42, 43 ans.
Est-ce que vous avez senti un vide pendant quelque temps au début?
Alors, peut-être pas tout de suite, parce que quand on arrête la compétition, j'ai pris ça comme un moment de dire, ah ben maintenant je vais pouvoir souffler, faire autre chose. Mais j'allais pas rester à rien faire. Et puis, ça m'a permis, bien sûr, de donner un peu plus de temps déjà à ma famille, et puis aussi à d'autres passions comme la chasse, que j'ai toujours dû mettre un peu en stand-by, parce qu'on peut pas. Parce que la chasse, c'est comme la course à pied, ça se prépare. Et un bon chasseur, ce n'est pas un chasseur qui sort le fusil, qui part à la chasse, mais c'est un chasseur qui va se balader en montagne, qui va préparer son territoire, qui va repérer son gibier. Et si on n'a pas le temps de faire, eh ben, on ne prend pas le permis et on ne chasse pas. C'est mon avis. Mais tout le monde ne le fait pas, bref. Par contre, voilà, c'est vrai que c'était un moment qui était difficile quand même, parce que quand on passe du devant de l'affiche et puis qu'on retombe un peu on rentre dans les rangs, eh bien, c'est un moment qui se passait très bien au début, mais après, c'est vrai qu'il y a toujours le contre-coup, et puis c'était des moments un peu plus difficiles à passer. Mais je crois que maintenant, mon deuil, il est fait, c'est bon. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir maintenant, justement, à coacher des jeunes et des moins jeunes pour leur permettre, pourquoi pas, de gagner aussi une fois Cierdinal.
Nous allons maintenant aborder la deuxième partie d'interview qui a pour thème « Que faire de sa vie après la retraite sportive ?» Tarsis Ancet nous parle tout d'abord de son activité de coach.
Alors, le BCV Monta Six Team, c'est un team de course à pied de montagne. Je dis bien de montagne parce que depuis cette année, on a intégré quelques athlètes qui font aussi du trail. Ça fait 10 ans, c'est la 11e année cette année que ce team existe. Il est né d'une idée de mon physio Patrick Crétenant et de moi-même, où c'est qu'on a mis ça sur pied. La Banque cantonale nous a tout de suite soutenus, en tout cas l'année suivante nous a soutenus parce qu'on a eu cette opportunité de travailler avec eux. Et moi j'ai pu bénéficier de tous mes anciens sponsors que j'avais à l'époque quand j'étais professionnel, qui ont été d'accord de nous soutenir, tout le team, à des conditions différentes évidemment, mais quand même ils étaient là, ils ont cru en nous, comme la marque ASICS. Et puis, ce team consiste simplement à encadrer des jeunes, de leur donner la possibilité de pratiquer leur sport de la meilleure des façons, avec du matériel adapté, avec des conseils adaptés, avec des plans d'entraînement s'ils le désirent. La plupart de ces membres de ce team ont leur propre entraîneur. Et pour les jeunes qui arrivent, ils ont toujours la possibilité de nous demander des conseils à moi-même ou aux autres du team pour valoriser leurs performances, pour optimiser leurs entraînements. Et puis, c'est aussi une histoire de logistique. Ça nous permet aussi de se déplacer ensemble et puis de nous encourager aussi, comme c'est le cas pour la prochaine course de Cierdinal où la moitié des coureurs vont participer et la deuxième moitié, ils vont ravitailler, voire encourager.
Depuis que vous avez quitté la compétition, en tant que coureur, vous êtes resté très actif entre votre magasin, les activités coaching, la politique. Comment est-ce que vous arrivez à concilier toutes ces activités avec votre vie familiale? C'est parfois difficile ou...
Alors, je ne vous cacherai pas que c'est très difficile parce que la journée, elle comporte 24 heures, la semaine, 7 jours et le mois, 31 en moyenne, 30-31. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des choix à faire, il y a autant au niveau familial que sportif, que dans la politique. Il y a des semaines qui sont très chargées et d'autres un petit peu moins. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de plaisir d'ailleurs à vivre cet été ici parce que j'ai vraiment l'impression de pouvoir souffler, même si je sens déjà venir l'agenda qui se remplit de plus en plus pour le mois d'août. Mais en attendant, c'est vrai que... c'est compliqué, il faut trouver des solutions, il faut trouver des compromis et puis aussi essayer de se raisonner un petit peu, de ne pas trop prendre d'activité, de ne pas se dire que si une commission si on veut qu'une commission fonctionne, il faut y être à l'intérieur. Non, je pense que je vais devoir faire des choix et puis à l'avenir je pense même me détacher un petit peu de certains projets de façon à donner un peu plus de temps à ma famille.
Dernière question, dans quelques jours, il y aura Cierdinal. Est-ce que vous allez voir la course? Est-ce que vous restez passionné par rapport à cet événement?
C'est vrai que Cierdinal, c'est un petit peu l'événement de l'été. Ça a toujours été pour moi, vu que c'était un projet... C'était l'objectif de ma saison d'été, donc tout était lié à cette date. Cette année n'en démord pas, je serai au départ des touristes pour encourager tous les touristes qui seront là et la plupart de mes clients qui font la course. Et puis je serai au départ aussi des élites pour voir enfin cette année Didier de Courtaine prendre le départ en élite. En tout cas, il a avantage. Et puis, J'espère aussi que de pouvoir les encourager à l'arrivée et puis dans les temps qui se sont fixés.
C'est ainsi que se termine cette interview. Merci mille fois à Tarcis Sensei ainsi qu'à Augustin Genoux. Merci également à toutes les personnes qui nous font l'honneur de nous écouter. Bye bye.